On va revenir maintenant sur le fait judiciaire du jour. Le coup de théâtre, Cédric Jubilard, qui a reconnu avoir tué son épouse Delphine, se dit prêt à aider les enquêteurs à retrouver le corps. Visiblement, il l'a écrit à ses conseils qui ont pris la parole dans la journée.
Man, il m'a dit, écoutez maître, il faut que je vous dise la vérité, c'est moi. C'est moi qui suis à l'origine de la disparition de ma femme. L'explication qu'il donne est la suivante. Il s'agit d'un couple qui s'est dégradé inexorablement depuis plusieurs mois, avec des tensions de plus en plus fortes. Et c'est dans le cadre d'une énième dispute conjugale que les choses ont mal tourné et que celui-ci se retrouve donc à l'origine de la disparition de sa femme. Parce que quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il a tout de suite pensé à ses enfants. Il s'est dit, il ne faut pas qu'il ne voit ça, donc je dois déplacer le corps. Il a pensé aussi, parce qu'il s'agit d'un être humain, mes enfants m'en voudront, ils ne me le pardonneront pas. Et donc, très rapidement, pour ne pas dire immédiatement, il a pris la décision de déplacer le corps de Delphine avec le véhicule. Et en ce qui nous concerne, nous espérons que tout sera fait avec l'aide de Cédric Jubilard pour retrouver le corps de Delphine. Il n'y a rien de plus important aujourd'hui.
On peut considérer que ce sont des aveux, oui, Dominique Rizet, les aveux de Cédric Jubilard.
C'est un premier pas vers des aveux et qui devront être confirmés de toute façon devant des enquêteurs à la demande d'un magistrat, lesquels aveux serviront ensuite devant une cour d'assises à aller plus loin dans le futur procès qui sera le sien, qui était prévu le 21 septembre, qui pourrait être reporté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il y a des investigations nouvelles à mener. L'audition de Monsieur Jubilard, la recherche, s'il donne le lieu, du corps de sa femme, l'autopsie du corps de sa femme, et puis ensuite l'audience devant la cour d'assises d'appel.
Ça veut dire que les recherches vont recommencer. Bruno Cazac, vous êtes ancien commandant de la section de recherche de Nancy. Visiblement, si l'on en croit ses avocats, ses nouveaux avocats, de Buisson père et fils, Cédric Jubilard est prêt à indiquer l'endroit où se trouve la dépouille de son épouse. Donc très vite, j'imagine que les gendarmes vont entendre Cédric Jubilard.
Bah, s'il est prêt, on peut
pas tarder.
On peut peut-être douter un petit peu de la stabilité des propos de Monsieur Jubilard depuis 6 ans. Donc moi, la seule chose dont je suis sûr, c'est que il y a un dossier très solide qui a été constitué par la section de recherche de Toulouse et l'ensemble des gendarmes de la région depuis des années, et que Monsieur Jubilard a pris 30 ans au premier procès. Sans avouer quoi que ce soit, en tout cas officiellement, puisqu'il s'était quand même déjà livré lors de sa détention un certain nombre de personnes. Donc ce sont des aveux, certes tronqués, mais ce sont des aveux quand même. Donc moi, la seule chose que j'attends de M. Jubilard, puisque c'est la seule chose qu'on attend tous, le reste on le sait, c'est qu'ils nous disent où est sa femme.
Et quand on aura retrouvé le corps, on aura compris aussi de quoi elle est morte précisément.
Et qu'on puisse l'identifier déjà dans un
premier temps,
pour être sûr qu'il nous envoie pas vers une fausse piste.
Mais quel corps on peut retrouver des années après, dans quel état ?
Les scientifiques pourraient vous en parler mieux que moi, mais il y a trois points clés d'identification de le terme est désagréable, mais de cadavres, c'est les empreintes digitales, les dents et l'ADN. Là, ça fait quand même quelques années que cette personne est disparue, ce qui veut dire qu'il faut impérativement qu'on arrive à identifier formellement sa dépouille. Et on ne sait pas dans quelles conditions elle a été séquestrée ou abandonnée.
A-t-elle été enterrée ?
Déposée, enterrée dans des lieux humides, pas humides. Donc, on peut avoir la bonne situation où les trois points clés que j'évoquais seront concordants et où le travail de la gendarmerie scientifique pourra être fait. Et puis on peut se retrouver confronté à la situation inverse, c'est-à-dire que le corps est trop dégradé et que les examens seront longs, fastidieux et peut-être pas forcément couronnés du succès qu'on peut en espérer.
Nous sommes avec notre confrère Frédéric Abella, il est journaliste justice à la Dépêche du Midi, puisque ce sont nos confrères qui ont eu cette exclusivité. Bonsoir Frédéric Abella. Qu'on comprenne bien, il a donc avoué dans une lettre envoyé à ses conseils, c'est comme ça que ça s'est passé ?
Oui, bonsoir. Oui, ce sont une lettre, même deux lettres exactement, pour être plus précis, qui ont été rédigées par Cédric Jubilard lui-même, de son écriture, en un style assez enfantin et un style à lui, très très reconnaissable et. Donc, dans ses écrits, il reconnaît son entière culpabilité. dans la disparition de sa femme. Alors, ce sont pas des aveux jetés comme ça sur un coup de tête. Hein. C'est le fruit vraiment d'un travail qui a mûri, d'une longue réflexion avec ses avocats, notamment d'abord Pierre de Buisson et ensuite son père, et avec lesquels il y a eu une relation de confiance qui s'est instaurée très vite, depuis exactement janvier 2026. Et donc, ces aveux, ce ne sont pas des aveux faits sur un coup de tête. C'est vraiment un travail profond. Parce que ça fait plus de 5 ans.
Qu'est-ce qu'il écrit, Frédéric? Parce que vous avez eu la possibilité de consulter directement ces deux courriers. Il décrit précisément ce qui s'est passé ce soir-là, cette nuit-là?
Alors, je ne peux pas vous donner dans l'intégralité toutes ces informations avec précision, parce que Cédric Jubilard considère que il va réserver les détails à la justice, puisqu'il se met désormais en son entière disposition. Ce qu'on peut dire, c'est que dans ses écrits, il reprend le fil de la soirée et il parle de disputes. On sait qu'il y a un contexte extrêmement conflictuel entre elle et lui, entre Delphine Jubilard et lui. Le couple est en instant de divorce et il parle d'une dispute de trop, d'une énième dispute qui a dégénéré. La suite, c'est que tout s'est passé dans la maison. Il a transporté le corps dans la voiture, la 207 bleue, qui était garée dans la rue. Et ensuite, il a déposé le corps à un endroit qui n'est pas très loin de Cagnac. Voilà.
Mais il ne dit pas lequel.
Alors, ça, encore une fois, ce sont des détails qui réservent à l'institution judiciaire, qui réservent aux enquêteurs lorsqu'il sera entendu prochainement.
Attendez, qu'on comprenne bien, Frédéric. Dans la lettre, il explique comment il l'a tué et où il a déposé le corps ou pas, de ce que vous avez lu et vu.
Non, alors, dans cette lettre, il donne des éléments de détail, il donne des éléments précis, mais sur des points fondamentaux, sur des points cruciaux, il dit qu'il s'en expliquerait et qu'il... Vous donnerez tous les détails, toutes les informations utiles à la manifestation de la vérité aux enquêteurs. Très
bien. Et Frédéric, je ne comprends pas.
Ouais, oui. Non, mais juste, moi, je ne peux pas vous révéler. C'est pas mon rôle. Je ne peux pas vous révéler.
Oui, mais ce qu'on ne comprend pas, Frédéric, c'est pourquoi il passe par ce courrier manuscrit adressé à son avocat Pierre Dubuisson. Pourquoi il ne s'est pas directement adressé à la justice?
Il faut savoir que Cédric Jubilard et ses avocats, depuis plusieurs mois, ont entamé des démarches pour justement que Cédric Jubilard sorte de son isolement. Ses avocats n'ont eu de cesse, d'après ce qu'ils disent, de solliciter les institutions pénitentiaires, la Cour d'appel de Toulouse, et manifestement, ils n'ont jamais été satisfaits des réponses, parfois des non-réponses, qui leur ont été faites. Et donc, si vous voulez, ça crée une sorte de rupture entre l'institution judiciaire et les avocats de la défense, et notamment Cédric Jubilard. Donc, ils ont estimé que, puisque l'institution judiciaire n'était pas apte à répondre à leur sollicitation, eh bien, ils s'en passeraient. Voilà. Donc, c'est par ce biais qu'on a su ce qui se tramait. Voilà, en gros, la situation, Cédric Jubilard est à l'isolement depuis 5 ans. Il arrive au bout du bout, c'est une épreuve pour lui. Voilà, c'est ça de manière très douloureuse, bien sûr. Bon. Maintenant, voilà.
L'épreuve, elle était surtout jusqu'à présent pour la famille de Delphine Jubilard et puis pour ses enfants, bien sûr. Mais Frédéric, on voit, d'après ce que nous a dit Frédéric Abella de la page du Midi, on le remercie d'avoir été avec nous, il sait très bien ce qu'il fait là quand même, Cédric Jubilard. Il écrit à 3 mois de son nouveau procès, il donne des détails sans en donner trop, en disant qu'il les réserve ensuite à l'enquête. Enfin, tout ça est bien calculé.
C'est une stratégie.
On ne peut pas imaginer, en tout cas, avant qu'il ait écrit ce courrier à ses avocats, qu'il n'en ait pas discuté avec eux. Donc oui, évidemment, qu'il a dû discuter des modalités, des révélations dans lesquelles il allait pouvoir faire ces aveux-là. Donc oui, bien sûr que tout ça a été discuté en amont avec sa défense. On ne pourrait pas imaginer l'inverse. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça que la défense s'est sentie autorisée à verser ce courrier qui, je le rappelle, est normalement censé être confidentiel puisque les échanges entre un client et un avocat sont couverts par la confidentialité absolue, y compris si le client demande à lever cette confidentialité.
Mais Maître Vial, est-ce que les aveux de Cédric Jubilard après 5 ans de mensonges et de silence, est-ce que ça peut rendre le jury plus clément puisqu'il y a un nouveau procès qui est prévu en septembre?
C'est difficile parce qu'en fait, le temps de l'audience est tellement important avec l'oralité des débats que c'est difficile en amont, autant en amont, de vous dire si ça va avoir un impact sur les jurés ou pas. Je crois qu'il faut de toute façon encourager les aveux parce que je pense que c'est important. Je pense qu'à un moment donné aussi, on est dans une société où on a besoin d'une prise de responsabilité, encore plus pour les féminicides.
Donc, il c'est faut parfois le rôle de l'avocat. Évidemment. De faire avouer son client.
Mais de bon nombre de fois,
quand finalement, l'évidence est là et que on voit bien, il a pris 30 ans en première instance, donc il n'a pas convaincu de son innocence.
Même quand l'évidence n'est pas là. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé seulement quand on est au pied du mur parce que des éléments matériels nous accablent, avouer un crime. On peut le faire aussi sans ces évidences et sans ces éléments matériels. Et je crois que c'est l'avocat de la défense est pleinement dans son rôle lorsqu'il accompagne son client là-dedans.
Un mot quand même sur ces conditions de détention, les avocats de Jubilard en ont parlé. Semble-t-il, elles sont dures, difficiles. Il est à l'isolement depuis 5 ans. On lui mettait des médicaments extrêmement puissants qui en faisaient presque un zombie. Voilà ce que disait Maître Guy de Buisson pour expliquer le comportement de Jubilard qui a été, on le sait, très mutique durant son premier procès.
Alors, on lui mettait des médicaments, c'est quelque chose qui m'étonne dans la formulation. Qu'il ait un traitement qui soit suivi pour par rapport à une angoisse, et notamment une angoisse liée au choc carcéral, oui, je veux bien le croire, bien sûr. S'il était vraiment atteint par une maladie mentale, il serait pas traité par le SMPR, il serait traité par une UHSA.
Il est en service médico-psychologique en ce moment, c'est-à-dire c'est une unité à part en détention.
C'est en détention et c'est ce qui s'occupe un peu du tout venant des troubles mentaux. S'il y a un...
Donc c'est quelqu'un qui ne va pas bien psychologiquement.
Les détenus vont rarement très bien. Mmh. Et surtout, effectivement, quand ils sont dans des conditions, et là on parle de l'isolement le concernant, des conditions où il rumine sans cesse comme un lion en cage, et qui font que finalement, oui, il y a de quoi se déprimer. Hein. N'importe qui, c'est généralement les détenus se raccrochent, surtout quand les procès ne sont pas passés. C'est plus facile après un procès parce qu'on peut passer à autre chose.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il ait envie quand même, là, avec la relation de confiance avec ses avocats, de soulager quand même sa conscience?
Alors,
aussi, de se dire c'est le moment.
C'est une hypothèse à laquelle je crois assez peu.
Ah.
Parce que effectivement, quand on voit la personnalité de Cédric Jubilard, tout ce qui alimente ses sentiments de honte sûrement, parce qu'il y a de façon extrêmement importante chez lui la notion de l'image de l'autre, tout ce qui alimente aussi son besoin de manipuler, parce qu'il c'est une façon pour lui de se sentir plus fort qu'il n'est réellement. Donc tout ça font que, surtout au regard de ce qu'on a vu, son comportement par rapport à son ex-épouse, par rapport à ses enfants, même si maintenant il dit le contraire, ça laisse penser qu'effectivement la culpabilité n'est pas ce qui l'étouffe le plus. Par contre, il veut se défendre, il veut s'en sortir, il veut sûrement changer l'image que l'on a de lui, ce qui arrange aussi probablement la défense, parce que sinon, aux mêmes poses produiront les mêmes effets. Là, il faut changer de perspective.
Avec, le procès en appel qui arrive. Merci d'être venu sur le plateau de BFM TV.